tout de suite.
Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h.
Silence.
Toujours sur Radio Entre Deux Mers, il est l'heure de votre émission, la conversation autour du cinéma. Donc, je suis évidemment accompagné de Anne. Salut Anne.
Salut Thibaut. Oui, on va bien, tu vas bien. Moi, j'ai retrouvé un peu ma voix. Oh, bah oui. J'espère que ça s'entend, que c'est mieux la voix ou pas,
oui.
Non pas
ah oui, oui, ça ouais, s'entend.
Un peu quand même. Bonjour, chers auditeurs. Oh, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ma voix sera moins désagréable pour vous, au son en tout cas. Voilà, mais c'est la saison, hein. Autour de moi, j'ai plein de gens comme ça, qui ont des petits soucis de gorge. Donc, bon, de toute façon, on va commencer, hein, on va parler de cinéma.
Ouais.
Eh ben oui. Alors, c'est pas une question que je te pose, mais c'est le titre d'un film. Quand tu seras grand. D'ailleurs, la question, ce serait quand seras-tu grand ? Bon, donc c'est
moi,
pas une question.
Moi, je suis quand même déjà grand.
C'est pas une question. C'est au contraire, c'est une affirmation. Quand tu seras grand. Le titre de cette comédie dramatique qui dure 1h39. Alors, ils sont deux réalisateurs. C'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Eh bien non, il y a Andrea Bescon qui est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 43 ans, elle a 3 ans de carrière, 5 tournages à son actif. Elle a eu déjà 2 prix. Alors, le film qu'elle avait déjà réalisé avec Éric Métayer, dont on va parler tout de suite, c'est Les Chatouilles. Or, Les Chatouilles ont reçu le César de la meilleure adaptation à Cannes en 2019. Voilà, donc ils sont habitués aux lauriers en plus, là, tous les deux. Donc, André Bescon. Et puis, on a donc, justement, Éric Métayer, voilà, son compère qu'on connaît, oh là là, on le connaît bien, Éric Métayer, réalisateur, scénariste, acteur français, il a 65 ans, 41 ans de carrière, il a 46 tournages, parce qu'il a été, il a joué comme acteur dans pas mal de films, et il a aussi, justement, les 2 prix pour le film Les Chatouilles, voilà, lui aussi. Il a ces 2 prix et 11 nominations aussi, voilà, pour Éric Métayer. Et alors, là, quand tu seras grand, de quoi s'agit-il ? Yannick est un aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face au manque de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu'on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d'enfants, la situation se complique. Leur arrivée, ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents. Et oui, alors, on va voir qui a-t-on mis justement au casting de ce film. Eh bien, il y a Vincent Macaigne. Ben, on les connaît tous quasiment. Qui joue Yannick. On a Aïssa Maïga, c'est Aude, l'animatrice. Oh là là, ils ont du talent, tous ces gens-là. On a Christian Siniger aussi, qu'on connaît. Si on a un peu oublié son nom, dès qu'on le voit, on le connaît. Bah alors là, c'est sûr, hein. On l'a vu, on l'a déjà vu dans de nombreux films et dans des téléfilms également. On a Evelyne Istria, c'est pareil, on la connaît également. C'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à retenir les noms, mais c'est vrai que quand on est habitué à aller au cinéma, on reconnaît quand même absolument les visages. Et puis là, on a un jeune acteur, Christian Billon. Il a 14 ans, ce jeune acteur. Il joue le rôle de Brieuc, qui est un. Enfin, on ne va pas tout raconter, mais qui a un rôle important là, d'un enfant dans ce film. Il est assez formidable d'ailleurs, Christian Billon. Il joue le rôle de Brieuc. Et on a Maryse Guillain, mais oui, on la connaît. On a Carole Franck, qu'on connaît également. Et Éric Métayer, alors lui, il a un rôle. Un des réalisateurs a le rôle du directeur, justement, de l'EHPAD. Et puis plein d'autres. Oh là là, on a plein de talents dans ce film. Un beau casting. Ouais. C'est vraiment un beau casting. Alors en fait, la, comment la Éric Métayer nous dit que il y a quelques années, ma grand-mère a été placée en EHPAD. Quand nous sommes venus la voir avec nos enfants, nous avons remarqué à quel point leur présence faisait réagir les personnes âgées. Tout à coup, elle pétillait de nouveau. Et cela nous a beaucoup émus. Voilà. Ça commence par ses souvenirs, les souvenirs de sa grand-mère. Voilà le thème principal du film. Ils ont voulu, tous les deux, Andrea Bescond et Éric Métayer, ils ont voulu montrer l'enfance et la vieillesse comme les deux maillons oubliés de la société. Ils nous disent qu'elles constituent deux parties de la vie qu'on ignore un peu. Ces gens qui remplissent les EHPAD ont eu un métier. Ils ont eu une vie, une histoire. Ce ne sont pas simplement des vieillards qu'on ramène dans leur chambre. Et c'est la même chose pour les enfants. Et le petit héros, là, Brieuc, justement, le jeune héros, il a 14 ans, le petit héros du film, n'est pas victime d'un grave traumatisme. C'est juste un gamin délaissé affectivement. Et il en existe des milliers comme lui. Alors évidemment, en tournant dans un EHPAD, les réalisateurs Andrea Bescond et Éric Métayer traitent aussi du sujet brûlant des conditions de travail des soignants et leurs répercussions sur la vie des résidents. Alors évidemment, ils voulaient, c'est ce qu'ils nous disent, on ne voulait pas faire un film politique, bon, qui aurait peut-être été plus proche de la réalité, ni tomber dans la mièvrerie. On a choisi une voie médiane. La vérité nous semblait être dans ce juste milieu. Alors, on va pas trop en raconter parce qu'il faut aller voir le film, ce très beau film.
Mais
Oui,
avant d'aller le voir, moi je propose d'écouter la bande-annonce.
merci.
Donc tout de suite, la bande-annonce de Quand tu seras grand.
Alors Marguerite, ça va?
Que dalle.
Bon, vous avez la forme. Ah ben c'est là, t'étais pas tenue?
Si, si, mais sous-effectif ce matin.
C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça.
Ah non, mais j'ai rien touché, moi.
Vous avez rien touché?
Non, non.
Et ça, qu'est-ce que c'est que ça?
Ben oui, je suis gourmande et puis voilà.
La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants.
Bonjour!
On vous parle de tous nos problèmes et là vous en rajoutez de
non,
nouveaux.
C'est...
Attends, c'est quoi ce cimetière là? On va quand même pas bouffer là?
On est en sous-effectif, vous aussi?
On vient d'arriver, je vous agresse pas, moi.
On est complètement dépassé. T'as signé ma pétition? Ça vous dérange pas le bruit à midi?
Non, non. Ça pue les gosses.
Ah! Mais ça, faut le dire!
C'est votre pétition.
Merci.
On a tous signé, hein, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là.
Moi, je les protège, les enfants, hein? Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici.
C'est mes parents, ils s'en foutent de moi.
Nous, c'est vos enfants qui se foutent de nous.
6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir.
Faut jouer avec vous?
Je t'ai apporté un truc.
Trop classe! Il est à toi?
Ah oui?
Ils peuvent être encore plus heureux. Il suffit de le vouloir.
Vous êtes battu pour le droit de vote, vous êtes battu pour la contraception, vous avez le droit au calme.
Ça va la manipulation?
Vous avez le droit au calme.
Ça se passe comment au niveau de la manipulation?
Je manipule personne.
C'était la bande-annonce de Quand tu seras grand, et après on va passer à...
Ah,
J'aurais dit une animation, juste au nom.
Non, ben oui, non, ben non, mais non. Non, c'est pas une animation. Le titre est surprenant un petit peu. C'est Notre tout petit, petit mariage. Ça, c'est le titre, hein. Notre tout petit, petit mariage. Ça dure 1h23. C'est une comédie de Frédéric Thirring, qui est un réalisateur, scénariste, acteur. On le connaît absolument comme acteur. Alors là, c'est sûr, hein. Frédéric Thirring, c'est pas... on ne peut pas l'avoir raté comme acteur, c'est sûr. Il a 29 ans de carrière, il a 36 films, enfin, des tournages comme acteur et comme réalisateur à son actif. Ah oui, alors lui, il a un visage qu'on connaît absolument. J'étais ravie que ce soit lui d'ailleurs. Je l'aime beaucoup comme acteur, je l'apprécie beaucoup. J'étais ravie que ce soit lui qui ait réalisé ce film. Donc, c'est quoi? Alors, ce tout petit, 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 petit mariage. Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage, ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça, c'était sans compter sur l'énorme fête surprise qui les attend. Ils voulaient être quatre, ils se retrouvent 300. Et tout va très vite devenir incontrôlable. Ils rêvaient tout petit, petit, ils auront grand, très, très grand. Alors évidemment, c'est un thème quand même relativement amusant, avec un casting extrêmement sympathique. On a Camille Lou dans le rôle de Lou, on a Ahmed Silla dans le rôle de Max, on a Grégoire Bonnet, on a Marc Rizzo. Bon ben on les connaît tous. On a Barbara.
Pour ceux à qui ça parle, Grégoire Bonnet dans Scène de ménage.
Oui, tout à fait,
Voilà.
pour ceux qui
Pour
regardent.
mettre un visage.
Ouais. Et Marc Rizzo, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans Je
Une
te
série sur
promets.
TF1.
Je promets ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu, moi, la série. Mais il y était ainsi que Camille Lou, d'ailleurs. On les retrouve, on est content. Alors, on a Barbara Bolotner aussi, on la connaît, c'est pareil. On a Andréa Ferréol, mon Dieu, quel talent. Andréa Ferréol, quelle grande actrice. On a Anne Caillon, on a Denis Mpunga aussi, mais on les connaît tous. Hein. Anne Benoît, Marie-Sona Condé, tous, tous. C'est un casting très, 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 très sympathique. Il ressemble tout à fait à Frédéric Thirring, d'ailleurs. Voilà, c'est son... je suppose d'ailleurs que la plupart des acteurs sont ses amis. On le ressent comme ça, en tout cas. Alors, donc c'était, alors c'est pendant le confinement que Frédéric Thirring a eu l'idée du scénario de ce film. Étrangement, nous dit-il, c'était un moment où on n'avait pas le droit de voir nos parents, nos amis, de faire la fête, de se marrer, tout ça. Et tout à coup, dans ce contexte, j'ai eu envie de faire un film sur une gigantesque fête qui réunirait tous ces gens-là. Voilà, ça lui est venu à ce moment-là. Donc c'est quand même... Il est fan, Frédéric Thirring, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il est fan de comédie, de mariage. Voilà. Parce que pour lui, c'est un registre très fédérateur où toutes les générations peuvent trouver leur compte et s'amuser. Et ensuite, c'est un genre... Dit-il, très codifié, qui offre des rendez-vous avec le spectateur. Mais oui, c'est sûr, parce qu'il y a quoi? Ben, il y a le choix de la robe, y a la cérémonie à la mairie ou à l'église, il y a le lancer de bouquet, il y a le discours, il y a le banquet, il y a la première danse, enfin, tout ça, quoi. Donc on peut alors détourner ces rendez-vous, jouer avec eux et créer des situations de comédie. Et puis, il ajoute qu'en outre, les comédies de mariage sont toujours des films choraux qui permettent de s'amuser avec des personnages aux tonalités différentes. C'est vrai. Les personnes qu'on retrouve dans les mariages sont toutes tellement différentes les unes des autres, c'est sûr. La plupart d'ailleurs ne se connaissent pas. Ils font partie, soit ils sont invités par le marié, soit par la mariée. Et puis voilà. Donc, ça fait tout un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont différentes, et puis qui, là, vont s'amuser pendant plusieurs heures ensemble pour fêter.
Et heureusement qu'ils sont différents, sinon ce serait trop chiant si c'était tout le temps les mêmes personnes.
Ben oui, c'est sûr.
T'imagines 300 fois la même personne, c'est lourd.
Donc, c'est vrai que c'est pour le cinéma, c'est chouette, quoi, effectivement. Voilà, en tout cas. Bah écoutez, mes chéris, quoi, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage, enfin, mis à part le vôtre peut-être, et puis ou le mariage d'amis ou de la famille. Je suis en train de perdre mes notes qui sont parties, voilà, qui sont par terre, je les ramasse, voilà, voilà. Et donc, si vous avez trouvé que c'était amusant ou si vous vous êtes ennuyé ou si, je ne sais pas moi, ben, allez voir ce film et vous verrez un peu si vous avez vécu la même chose ou si c'était complètement différent pour vous. Voilà, par exemple. En tout cas, on ne doit pas s'ennuyer hein, à ce mariage. Et non, parce qu'ils sont tous très sympathiques. C'est une production française. Ensuite…
Ben, ah, on quitte la comédie, quoi. On part dans le drame historique.
Ah ben complètement, on quitte même le pays, on quitte la France. Même le pays. Voilà, et on part au Japon. Le titre, Okuzai, le titre du film, c'est un drame, c'est un biopic, hein, c'est historique. Ça dure 1h30 et c'est Hajime Hashimoto qui l'a réalisé. C'est un réalisateur scénariste japonais. Oh, il a 2 ans de carrière, il a 3 tournages à son actif. Et il a concocté un film magnifique, moi, vraiment quoi. Ça se passe au Japon au XVIIIe siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunro, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne n'imagine alors qu'il deviendra Okuzai, célèbre auteur de la grande vague de Kanagawa. Alors, on va quand même dire vite fait quand même, la grande vague de Kanagawa, c'est une estampe de Okuzai. C'est plus connu sous le nom de la vague. Et c'est une très, très célèbre estampe japonaise qui a été publiée en 1830. En 1831, pendant l'époque d'Edo. Alors, Edo, c'était qui est devenu Tokyo hein, depuis. Voilà ce que c'est que la grande vague de Kanagawa. C'est magnifique. Et alors là, bon, bah, là on a évidemment un casting japonais. Voilà. Alors, il y en a certains qu'on connaît quand même quand on a l'habitude d'aller au cinéma. Bah, par exemple, Min Tanaka, c'est un acteur qu'on connaît. Si on a vu déjà pas mal de films japonais, si on aime le cinéma japonais, lui, on le connaît. On a, alors, dans le rôle… D'ailleurs, Min Tanaka joue le rôle de Okuzai âgé, quand il est devenu un vieil homme. Au départ, quand il est jeune, il est joué par Yuya Yajira, c'est un acteur japonais.
Min Tanaka, qu'on pouvait retrouver dans 47 Ronin avec… Ken Uriz.
Ah oui, 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 bah oui, mais Min Tanaka, c'est vraiment un grand acteur et qu'on connaît absolument. Oui, oui. Ah oui. On a Hiroshi Abe, on a Hiroshi Tamaki dans les rôles principaux. Bon, moi, j'en ai reconnu 2 ou 3. J'ai reconnu Eita Nagayama aussi dans ce film. J'ai déjà vu dans d'autres films japonais. Je ne sais pas, vous, mes chéris, vous les connaissez peut-être aussi. Hein. Miyori Takimoto, charmante. On a Kanji Tsuda, lui aussi. Enfin, j'ai reconnu son visage, je l'ai déjà vu dans des films japonais. Donc, pour moi, c'est un très beau film. Je voulais absolument en parler. Okuzai, son prénom, c'est Katsushika. Katsushika Okuzai est né en 1760 dans les quartiers populaires d'Edo. C'est l'ancien nom de Tokyo, hein, comme je disais tout à l'heure, et montre très tôt des dispositions pour le dessin. Et c'est en 1830, à l'âge de 70 ans, qu'il publie son chef-d'œuvre, Les 36 vues du mont Fuji, série d'estampes de paysages, née de ses nombreux voyages à travers le Japon, et dans lequel on retrouve le plus emblématique de ses travaux, la fameuse grande vague de Kanagawa. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, très beau film. Mais chérie, si vous aimez le cinéma japonais, si vous aimez l'histoire du Japon au XVIIIe siècle et ce genre d'histoire d'ailleurs extrêmement intéressante, il est pour vous, hein, ce film. Sinon, si vous préférez les chats, par exemple, hein, plutôt que le Japon, allez, pourquoi pas les chats, écoutez, moi j'ai un film pour vous, hein, si vous aimez, si vous adorez les chats. Ça s'appelle Langue au chat. Quand est-ce qu'on dit ça, d'ailleurs, Thibaut, ma langue au chat?
Pour une devinette trop compliquée.
Voilà, exactement. Je donne ma langue au chat. Je vois que tu as joué aux devinettes. Très bien. Nous avons joué donc aux devinettes, toi et moi, puisqu'on connaît l'expression qui est très connue. Je pense que la plupart de nos auditeurs ont déjà donné leur langue au chat au moins une fois dans leur vie, je pense. Ma langue au chat, c'est une comédie d'1h39 de Cécile Tellerman, qui est une réalisatrice, scénariste, productrice belge. Elle a 58 ans, 18 ans de carrière, 12 tournages à son actif. Elle a eu, alors j'avais noté qu'elle avait un prix, oui, elle a un prix et 6 nominations, oui, c'est ça, voilà. Elle a eu un prix et 6 nominations dans sa carrière. Et là, elle nous offre une comédie quand même assez, voilà, c'est, bon, on va voir ce que c'est. À l'aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien, ni son travail, ni son mari Daniel, ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l'anniversaire de Daniel et que Max, le chat, disparaît, Laure disjoncte. Ah oui, elle disjoncte complètement. Hein. Et elle se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max? Qui est le coupable? Laure n'est pas au bout de ses surprises. Ah, et alors là, il va falloir aller au cinéma, voir ce film pour savoir ce qui est arrivé à Max. Et alors le casting, on adore son casting évidemment, Zabou Breitman, c'est Laure. Oh, que des talents dans ce film aussi. Pascal Elbé, c'est Daniel, le mari. On a Mélanie Bernier, on a Marie-Josée Croze aussi dans les rôles principaux. C'est chouette, c'est vraiment… Pascal de Molon, à mon avis, qui est un des meilleurs rôles secondaires du cinéma français. Pour moi, vraiment, quoi, Pascal de Molon. On a Samuel Le Bihan, ah bah oui, quel charme. On a Camille Lelouch, on a Mathias Melqueuse. Alors, Mathias Melqueuse, je crois qu'on dit, hein, parce que c'est M-L-E, c'est pas facile à prononcer, Mathias Melqueuse, qui a énormément de talent aussi, mais qu'on connaît. Lui, c'est sûr, on le reconnaît. On les connaît tous, hein. On les aime tous. Bah oui, joli casting quand même.
Et je vraiment. Suppose que tout le monde se dit, mais où sont les bandes annonces, tout ça? Parce que ça fait un moment dans l'émission qu'il n'y en a pas eu. On les entend, tout cela. Sachez une chose, que vous pouvez retrouver toutes les bandes annonces sur notre site www.re2m.org et sur le podcast de l'émission Conversation autour du cinéma. Et vous allez avoir toute la liste des films dont on a parlé aujourd'hui avec toutes les bandes annonces disponibles.
Tout à fait, merci. Merci pour la précision.
Petit rappel qui peut servir.
Tout à fait, absolument. Cécile Tellerman, donc la réalisatrice, est inspirée de sa propre relation avec son chat, dont elle avoue être totalement gâteuse. Alors, pour réécrire ce film, justement. Alors, avec son mari, elle possède une maison, nous dit-elle, dans un village du sud-ouest. Eh bien oui, par chez nous. Pardon. Où elle a l'habitude d'amener son animal de compagnie. Et c'est en observant sa relation fusionnelle avec son chat que le scénariste avec qui elle a travaillé, Xavier Daugrel, a eu l'idée d'un pitch. Que se passerait-il si j'invitais des amis à la campagne? Et que se passerait-il l'un d'eux écrasait mon chat par mégarde? Cela remettrait-il en question mon amitié avec lui? On a gambergé et on s'est dit qu'on tenait là peut-être un bon début et même, pourquoi pas, un ressort de comédie à suspense. Voilà ce que nous dit la réalisatrice. Et oui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibaut, de ça?
Si quelqu'un, un ami, écrasait mon chat par mégarde?
Ouais, si ça t'arrivait.
Ben, en soi, c'est un accident, c'est des choses qui peuvent arriver.
Mais est-ce que tu rejetterais tes amis pour ça?
Non. Certainement pas, je pense.
Ah oui, moi je suis moins sûre que toi de ça, parce que Moi, j'aurais du mal à pardonner. Je ne sais pas, il faut voir, hein, c'est peut-être pas du tout ça dans le film. Hein. Attends, là, c'est ce que, voilà, c'est ce que la réalisatrice nous a confié sur ce film. Hein. Mais bon, c'est sa relation avec son chat qui lui a donné cette idée, quoi, quand même. Hein. Et puis, elle a voulu aussi elle a voulu traiter un sujet qui est rarement évoqué au cinéma, le sujet de la ménopause, une période charnière pour les femmes. Alors, elle nous dit, peut-être parce que j'étais passée par là, j'ai eu envie de parler des femmes de plus de 50 ans. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure hein, qu'elle avait 58 ans. Celle des hormones qui font des leurres et qui sont fatiguées, désenchantées et souvent d'humeur sombre. Ce n'est pas très marrant d'être à ce tournant de la vie où les réalités sociales et biologiques semblent prendre le pas sur les désirs. Eh oui, c'est, il y a ça aussi. Effectivement, elle en parle par rapport à l'actrice principale, enfin par rapport au rôle principal tenu par Zabou Breitman, qui est à cette charnière de sa vie, quoi. Entre autres. Voilà, passer à côté de ce film, ça m'aurait vraiment ennuyé. Il est produit par la France. C'est une comédie sociale, en fait, sur les problèmes de la cinquantaine et qui repose sur les ressorts d'une enquête policière. Cécile Tellerman, la réalisatrice, elle voulait faire un thriller depuis longtemps, mais bon, on lui disait que son truc, c'était les films de femmes, et voilà, et qu'elle devait y rester. Alors, avec ce long-métrage, elle a franchi la ligne qu'elle n'osait pas franchir. Une femme enquête pour découvrir la vérité sur la disparition de son chat. Eh oui, de son matou chéri, comme elle dit. Et quand cette vérité éclate et que les masques tombent, elle en découvre de belles sur le mal-être de ses copains et sur la façon dont ils s'arrangent avec eux-mêmes pour cacher leur bobo existentiel. C'est un film qui traite de beaucoup plus de sujets qu'on imagine. Donc, très intéressant.
Et oui. Je te propose qu'on parte en Turquie maintenant.
Tu veux pas. Ah bon? Tu veux partir en Turquie? Ah, allez. Bon, bah écoute, allons-y. Moi, je veux bien. Hein.
Avec Burning Days.
Ouais, tu voulais pas l'histoire de Noémie d'abord?
Noémie d'abord, allons au Québec.
Tu veux qu'on aille d'abord
Si c'est au Québec, si j'ai bien lu, il me semble que c'est ça.
Alors, Noémie.
Je me suis un peu avancé dans la liste pour ceux qui n'ont pas compris. Je me suis planté de film.
Ouais. Noémie dit oui. Voilà. Alors, c'est un drame d'1h56 de Geneviève Albert. C'est une réalisatrice scénariste, Geneviève Albert. Et donc, elle a... Ah oui, alors, ce film-là, par contre, a un avertissement. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est un sujet assez dur. Hein. On va voir ce que c'est Noémie. C'est une adolescente impétueuse de 15 ans qui vit dans un centre jeunesse hein, depuis 3 ans. Lorsqu'elle perd tout espoir d'être reprise par sa mère, Noémie fugue du centre et elle est en quête et de repères et de liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, une ancienne du centre qui l'introduit dans une bande de délinquants. Bientôt, elle tombe amoureuse du flamboyant Zach qui s'avère être un proxénète. Fin, stratège, aux sentiments amoureux ambigus, Zach incite Noémie à se prostituer. Récalcitrante, au départ, Noémie dit oui. Donc là, c'est pour ça, mais ça m'embêtait quand même de passer à côté de ce film. Alors Noémie est jouée par Kelly DePau. Alors Kelly DePau, on n'a que des acteurs, oui, elle est canadienne au fait.
Oui, c'est pour ça que je disais, partons au Québec ou au Canada, voilà. Mais surtout au Québec, partons en français.
Voilà. Oui, c'est ça. Elle est canadienne. Donc, on a des acteurs canadiens, québécois. Hein. La plupart des acteurs sont québécois. Donc, Kelly DePau, qui a le rôle principal, est une canadienne. C'est une actrice canadienne de 20 ans. Elle est assez extraordinaire. Hein.
Alors, pour avoir vu la bande-annonce, franchement, ouais, c'est super bien joué.
Ah oui, oui, elle est quand même… Oui, tout à fait. Hein. On a James-Édouard Métayer, c'est un Québécois, qui joue le rôle de Zach. On a Amy Sukwan, Maxime Gibault. En fait, c'est ce que je disais, hein, des acteurs… moi, je ne les connais pas, j'avoue, des acteurs québécois. On a Jeff Lemay, Denis Larocque, Joanie Martel, Myriam de Bonville dans les rôles principaux. Je souhaite, on va découvrir des acteurs. En tout cas, moi, je suis ravie de découvrir des acteurs. Ainsi d'ailleurs que la réalisatrice, que je ne connaissais pas non plus. C'est un plaisir, là, quand on découvre comme ça, je trouve. Alors, c'est son premier long métrage hein, de fiction, Geneviève Albert. Elle a décidé de faire de la prostitution le sujet de ce film, de ce premier long métrage. C'est une réalité, dit-elle, qui me bouleverse et dont je m'explique mal la présence dans notre société. Comment se fait-il que cette transaction qui cause tant de tort aux personnes prostituées soit globalement tolérée, ici comme ailleurs ? Elle se pose la question. Ma révolte face à la prostitution est proportionnelle à la violence vécue par les femmes et les hommes qui se livrent à cette activité. La violence des relations sexuelles non désirées, la violence du nombre de clients, la violence de la négation de soi, la violence d'être acheté, la violence de notre silence collectif. Elle ne voulait pas détourner, dit-elle, le regard face à l'horreur. C'est d'ailleurs pour cette raison en fait, qu'elle a choisi de pointer sa caméra vers les clients de Noémie, alors que ces hommes bénéficient d'ordinaire d'une invisibilité dans la société. C'est la, c'est la seule réponse que j'ai trouvée pour contrer mon sentiment d'impuissance à l'égard de la prostitution. Voilà ce que nous dit Geneviève Albert, cette réalisatrice canadienne. Je crois qu'on parlera encore beaucoup d'elle, je pense. Je sais pas, je n'avais pas envie de passer à côté de ce film, en fait. Vraiment pas, quoi. Et donc, ensuite, qu'est-ce que tu voulais tout à l'heure quand tu m'as emmené, je ne sais pas trop où, là ?
Oui, la Turquie.
Ah, tu m'as emmené. Ah, ben oui. Alors là, tu m'as emmené dans un. Justement.
Du frais au chaud, là.
Oui, ben, ah oui. Oui, ah oui, oui. Une façon de dire ça qui me fait rire. Burning Days. Ben oui. Et alors, ce film est titré Un thriller à couper le souffle. Ah, et oui, il a été présenté au Festival de Cannes, section Un certain regard 2022. Eh ben oui. Et alors là, c'est un drame, un thriller, justement, de 2h08. Emine Alper. Emine Alper, c'est un réalisateur, scénariste, producteur turc. Il a 48 ans, 9 ans de carrière, 4 films à son actif et il a 2 prix et 29 nominations sur très peu de tournages quand même. Hein. Il est voilà. Ben Burning Days a vraiment eu. Oh là là, Burning Days. Attends, je l'avais noté. Oh là là, oui, oui, c'est 6 nominations à Cannes 2022. Après, en 2019, il avait réalisé Les Sœurs. Avec Les Sœurs, c'est pareil, il a eu plein de prix et de nominations. Alors, c'est un film qui est produit par la Turquie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce et la Croatie. Burning Days. Alors maintenant, on va voir de quoi il s'agit. Quelle est cette histoire ? Emine Alper, d'ailleurs, je l'avais vu, je crois, dans une interview. Il a un visage extrêmement sympathique. Alors, c'est l'histoire d'un jeune procureur qui s'appelle Emre, déterminé et inflexible. Il vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux, bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. ça nous amène à de la violence, évidemment. Alors, on a des acteurs turcs. Je n'en connais pas un seul. Chouette, je ne sais pas, mes chéris, vous en connaissez peut-être, toi aussi, Thibaut. En tout cas, moi, je dis chouette. Chouette, parce que je serais contente de les découvrir. Alors, dans le hall d'Emre, ce procureur, on a Sealatin Pasal. Alors, évidemment, pour la prononciation turque, c'est un peu compliqué. Dans les rôles principaux, on a Ekin Kos, on a Erol Babaoglu, on a Erdem Senokak. Et là, franchement, il faudrait qu'on se mette un peu à la langue turque parce que la prononciation est très, très, très compliquée pour une petite Française. Ah oui, là, c'est… Par contre, à mon avis, le casting est est excellent. Hein. Je pense que vraiment, quand on voit les bandes-annonces, ouais, et ouais. C'était en fait l'idée initiale d'Emin Alper, le réalisateur, c'était de décrire un idéaliste solitaire luttant contre l'élite corrompue d'une ville. Alors, cette idée lui a été inspirée en fait par les récentes expériences politiques de son pays. Il nous dit « On peut toujours avoir le courage et l'envie de se battre contre des politiciens corrompus et autoritaires. Mais quand on voit que ces gens sont populaires et qu'ils sont réélus par le peuple encore et encore, eh oui, c'est ça, eh bien on se sent désespéré et isolé. » Et après un certain temps, on doit surmonter cette dépression et recommencer à se battre jusqu'au prochain échec. Voilà ce que nous dit le réalisateur par rapport à son pays. Et oui, c'est quand même c'est très intéressant comme film. C'est très dur aussi.
Et je te propose maintenant qu'on reste dans la même région du monde.
Tu veux rester dans la même région ?
Ouais, il fait bon soleil.
Où veux-tu aller?
On va aller à Tunis.
Tu veux aller à Tunis?
Allez, à Tunis.
Ah, je pense que tu veux rencontrer quoi? Attends, parce que je crois qu'on a on a du désordre dans la copie là. Tu veux aller où toi là? Parce que moi je sais plus. Je suis en désordre dans mes.
Non, on va aller voir Amel et les fauves.
Oh ben voilà, d'accord, c'était bien à eux que je pensais.
J'ai suivi cette fois.
Ah ben elle est faux. Ben oui, mais oui, moi je sais pas, mes notes sont déclassées. Alors, Amel et les faux, mais oui, ça dure 2h02, c'est un drame, un thriller de Mehdi Hachmili. Pardon. Mehdi Hachmili, qui est un réalisateur scénariste. Et... Et c'est ça s'appelait d'ailleurs, le vrai titre, c'était Streams. On va voir pourquoi d'ailleurs. Alors, c'est un film interdit au moins de 12 ans, ça c'est noté. Et c'est d'après une histoire vraie de Mehdi Hachmili. C'est l'histoire d'Amel qui est ouvrière dans une usine à Tunis. Son patron la met en relation avec un homme d'affaires qui peut permettre à son fils d'intégrer le club de foot local. Profitant de la situation, l'homme tente d'abuser d'elle. La police les surprend, mais c'est Amel qui est finalement déclarée coupable d'attentat à la pudeur et d'adultère. À sa sortie de prison, elle part à la recherche de son fils dans les soirées underground de Tunis, peuplées de prédateurs et d'une jeunesse en quête de liberté. Terrible histoire, absolument. Et l'actrice qui a le rôle principal s'appelle Afef Ben Mahmoud et elle est formidable. Hein. Moi, je l'ai trouvée extraordinaire. C'est une actrice tunisienne. Ce sont des acteurs tunisiens, là, qu'on découvre également. Voilà, on a Zaineb Sawen, on a Sarah Anachi, on a Ilem Bouyaya. Alors lui, oui, c'est ça, c'est aussi un acteur tunisien. Ah ouais, ce sont des acteurs tunisiens. On les découvre, beaucoup de talent, assez impressionnant. Alors en fait, Mehdi Hachmili porte ce projet qui raconte un peu l'histoire de sa famille depuis de longues années. Voilà, pour le réaliser, il fallait qu'il rentre en Tunisie Et ce n'était pas évident compte tenu du contexte politique et social du pays. Et oui. La fin des années Ben Ali, juste avant la Révolution. Il nous dit, j'ai donc laissé le projet de côté, j'ai fait un autre film. Voilà, et j'y suis revenu. Alors, Streams, je disais que c'était le titre original parce que ce titre fait référence au torrent d'amour et de haine que les personnages traversent tout au long du film et dont le mouvement ne s'arrête jamais. Alors, il nous dit également que le titre est aussi un hommage à John Cassavetes et à son film Love Streams. Ah oui, John Cassavetes, l'ange du cinéma. Je ne sais pas si tu le connais, toi, Thibaut, peut-être pas, John Cassavetes.
Non, ça ne me dit rien du tout.
C'est un grand, grand réalisateur. On l'appelait l'ange, parce qu'il avait une tête d'ange, en fait. Il était appelé l'ange. Donc, c'est un film qui est produit par la Tunisie, le Luxembourg et la France. C'est pareil, je voulais en parler absolument. Puis toi, tu voulais aller en Tunisie. Écoute, je ne pouvais pas te contrarier tout de même.
Ah bah, tant qu'on est au soleil, autant y rester, quoi.
Bon, est-ce que tu... N'est-ce pas ? Est-ce que tu es un peu... est-ce que tu es misanthrope, toi, ou pas ? De temps en temps, dans ta vie ?
Bonne question.
Parce que c'est le prochain film, c'est le titre du prochain film, Misanthrope. Oh bah, je suppose que le misanthrope, le titre te rappelle quelqu'un, ça n'a rien à voir là. Mais ça rappelle quelqu'un quand même, le misanthrope, non ?
Par exemple. Non, j'ai pas.
Ça te rappelle pas ?
Non, ça me dit rien.
Un auteur qu'on connaît.
Bah, je vais toujours dire le nom, je vais faire « Ah ouais, oui, si !»
Molière.
Ben voilà, tu vois. Molière. Ah ouais, ben oui, Molière.
Mais ça n'a rien à voir là, hein. C'est un thriller, c'est un policier,
ouais.
Voilà, qui dure 1h58, c'est pas du tout Molière. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est pas le misanthrope, c'est Misanthrope, hein, tout court. Et c'est réalisé par Damien Sifron, qui est un réalisateur scénariste auteur argentin. Il a 47 ans, 18 ans de carrière, et il a 6 tournages à son actif. Et j'avais noté, parce que mes notes sont dans tous les sens, ah oui, 2 prix et 14 nominations. Ouais, il avait, en 2016, pour Les Nouveaux Sauvages, il avait reçu le prix, le meilleur film non anglophone, ouais, en 2016, ouais. Les Nouveaux Sauvages, oh là là, qui avait très très bien marché, qui a eu un nombre de récompenses infini. Oui, ça te dit quelque chose ?
Non, c'est que c'est le même, je vais y arriver, les mêmes producteurs que le film Memento et un autre film d'ailleurs.
Ah bah d'accord.
Qui est très connu aussi.
D'accord, il a donc 2 prix, 14 nominations dans sa très jeune carrière. Bravo, bravo. Et là, de quoi s'agit-il ? Misanthrope. Éléanore, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent. Mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Éléanore, quant à elle, se trouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. Sacrée histoire, je trouvais que c'était incroyable cette histoire. Alors, on a des acteurs britanniques, des acteurs américains. Alors, par exemple, on a dans le rôle d'Éléonore, on a Shailene Woodley, qui est une actrice américaine. Elle a une trentaine d'années. Elle a un talent si déjà. Bah oui. On a Ben Mendelsohn, on le connaît lui. Physiquement, on le connaît. On l'a déjà vu. Acteur britannique. Non, il est australien, Ben Mendelsohn. Oui, australien. On a Jovan Adepo, on a Ralph Hanson. Alors, eux, ce sont des acteurs britanniques dans les rôles principaux. C'est un film terrible, hein, c'est un film, c'est vraiment, c'est une poursuite insensée. En fait, c'est le premier film, c'est son premier film en langue anglaise à Damien Sifron, réalisateur argentin. Ouais, son premier film en langue anglaise. Donc, le film est produit par les Américains. c'est. Ils ont, enfin, il m'a semblé que les acteurs, que le casting était formidable. C'est des acteurs qui avaient un talent fou dans ce genre de cinéma.
Et je te propose du coup qu'on écoute, pas qu'on regarde, la bande-annonce de Misanthrope.
Ah mais oui, très bien. Parfait.
Donc, tout de suite, la bande-annonce de Misanthrope.
Parfait, parfait.
A été aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmer.
Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir.
Je vais bosser pour le FBI.
Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer. Agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage. Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter de nouvelles théories. Tout de suite. Ce type est dans une spirale destructrice. Genre différent. Certains sont vieux, d'autres jeunes.
Il n'y a aucune logique.
Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aîné, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars.
C'était la bande-annonce de Misanthrope et je te propose maintenant qu'on aille voir.
Dans quel pays veux-tu aller ?
Ouais, là, j'en ai pas en tête.
Ah, t'en as pas en tête. Bon, ben moi, j'en ai un quand même, là. Alors, ça s'appelle, le titre d'abord, Dirty, Difficult, Dangerous. C'est un drame. Un drame de Wissam Sharaf. Wissam Sharaf, réalisateur, scénariste, compositeur libanais. 14 ans de carrière, 8 tournages à son actif. Alors lui aussi, il a 6 nominations, un prix déjà, ouais, dans sa jeune carrière. Alors là, Dirty, Difficult, Dangerous, de quoi ça parle ? Ahmed, réfugié syrien, espérait trouver l'amour en Média, une femme de ménage éthiopienne. Mais à Beyrouth, cela semble impossible. Ce couple de réfugiés sentimentaux réussira-t-il à trouver sa voie vers la liberté, alors qu'Ahmed, survivant de la guerre en Syrie, semble rongé par un mal mystérieux qui transforme son corps peu à peu en métal. Pareil, ça m'a semblé incroyable ce film, mais vraiment quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je donne ce titre. Alors, on a des acteurs libanais, entre autres. On a Darina Adjoundi, on a Clara Couturé. Elle, c'est une actrice française dans ce film, Clara Couturé. On a Ziyad, Jalad, qui est un acteur américain. Il y a un mélange extraordinaire, d'ailleurs, d'acteurs et de... Voilà, on a Rifat Tarabeh, qui est un acteur libanais dans les rôles principaux. Chouette, on va découvrir tous ces gens-là. C'est un film produit par la France, le Liban, l'Italie et le Qatar. Je ne sais pas, je voulais en parler. Voilà, je vais parler de cette histoire. J'en avais envie. Eh oui.
Eh oui, t'as eu bien raison.
Bah oui, je voulais.
On va voir...
Alors, ensuite...
Alors, quoi ? Je sais pas... Alors là, je n'ai pas de transition du tout. Hein.
Tu veux aller où, là ? Oh, bah écoute, bon... allez, on retourne aux États-Unis.
Ouais, on va dire les États-Unis. On n'est pas trop sûr, mais...
On va dire les États-Unis, t'es d'accord ? Alors, allez. Eh ben, le titre est quand même assez, assez spécial. Beau, c'est-à-dire Beau, c'est le prénom Beau. Hein. C'est un prénom, Beau. Is afraid. Alors, on traduit quoi ? Beau est affolé, apeuré. Beau a peur. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai traduit ça comme ça. Hein. Ouais, bah oui. Il est, c'est une comédie. Il y a de l'aventure, il y a du drame. Ça dure 2h59. Là, on amène des pop-corns, hein, quand même. Parce que
oh, on est en train de rattraper Avatar.
On rattrape Avatar. Et c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain, Aster, qui a produit ce film. Il a 10 ans de carrière, il a 5 tournages à son actif, Ari Aster. Et alors là, vous allez voir après le casting qu'on a quand même. C'est un film interdit au moins de 12 ans, ça c'est noté absolument. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l'univers semble se liguer contre lui. On n'en saura pas plus. Par contre, on a un super casting quand même. Joaquin Phoenix. Alors pour moi, Joaquin Phoenix, c'est un des plus grands acteurs américains.
Joaquin Phoenix qui a joué le Joker. Donc, dans l'échelle des acteurs du Joker, parce qu'il y en a beaucoup, en premier, il y a Heath Ledger et juste en dessous, il y a lui. Quoi.
Ah oui. Joaquin Phoenix, c'est extraordinaire. On a Nathan Lane dans les rôles principaux. On a Amy Ryan. On a Stephen McKinley Anderson. Ce sont des acteurs américains. C'est un produit américain, de toute façon. Et c'est, et on ne s'ennuie pas quand même, hein, parce que c'est quand même… Ari Aster, en fait, il était devenu un des nouveaux maîtres de l'horreur quand il a sorti Hérédité et Midsommar. Mais alors, il estime que Beau is Afraid, le film, c'est son film qui lui ressemble le plus. Il nous dit qu'il contient sa personnalité et sa vision de l'humour. Voilà. Et là, ça se passe, ce film s'aventure dans le monde. Cette fois. Hein. Il y a 4 parties. Hein. Il est construit en 4 parties, le film. Il y a 4 parties plus 2 séquences. L'une est un flashback sur une croisière qui cimentera la dynamique de la relation entre Beau et sa mère, et l'autre est un dénouement pour le moins énigmatique. Il s'est complètement éloigné d'une structure traditionnelle, là, Ari Aster. Hein. Voilà. Il voulait éviter en fait les 3 actes et se rapprocher du rythme du roman en adoptant une structure moins conventionnelle et davantage contre-intuitive. Ça m'a semblé intéressant. Voilà, ma foi. Je trouvais que c'était que ça pouvait être très intéressant. Et puis, là…
On revient en France. Allez, oui. Retour à la maison. Bon, alors, bagage.
Ouais, alors je sens que tu veux parler du jeune imam, toi.
Ben oui.
Hein, c'est ça, hein.
Oui, oui.
C'est ça, oui. Ah bah dis-le que tu le veux, le jeune imam.
Alors, je vais le dire. Je veux parler du jeune imam.
Voilà, 1h38, c'est un drame de Kim Chapiron. Kim Chapiron, c'est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 42 ans, 25 ans de carrière. Et dans ses tournages, comme acteur, il a 15 tournages quand même. Il a eu des nominations également. Mais oui, parce qu'il a été… Pour Les Misérables, par exemple, il a eu la meilleure musique originale. Il a été une nomination au César 2020 pour la meilleure musique originale. Les Misérables, on se souvient de ce film. Hein. Les Misérables. Donc, qu'a-t-il voulu nous montrer avec le jeune imam? À 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère, qui l'élève seule, ne trouve d'autre solution que de l'envoyer au village, au Mali, pour finir son éducation. 10 ans plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient l'imam de la cité. Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d'aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman, faire le pèlerinage à la Mecque. Pareil, ça me semblait quand même vraiment… intéressant ce genre de film. Abdoulaye Sissoko, c'est lui qui joue le rôle d'Ali. Il est quand même assez formidable hein, dans ce rôle. C'est un acteur français. Hein. Ce sont des acteurs français d'ailleurs. On a Adi Berthe, alors c'est la maman. On a Issaka Sawadogo. On a Moussa Cissé. Moussa Cissé, on connaît son visage en tout cas. Ouais. Dans les rôles principaux. Je trouvais que c'était un casting assez sympathique quand même. Alors évidemment, le pèlerinage à la Mecque, on le sait, hein, c'est considéré comme un devoir par les musulmans. Il a un caractère obligatoire inscrit dans le Coran pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique. Voilà.
Et je te propose du coup qu'on regarde la bande-annonce du jeune imam du coup.
Qu'on l'écoute alors.
Tout de suite la bande-annonce du jeune imam.
D'accord.
Pourquoi on t'a envoyé au village ?
C'est quoi la très grosse bêtise que t'as faite ?
J'ai honte devant la famille.
Il est passé où l'argent ?
T'as déjà fait autant d'argent toi ?
Moi j'ai été élevée ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui.
10 ans là-bas, là, tu racontes quoi de beau ?
Il va falloir te trouver un travail !
Il va faire Uber comme tout le monde.
J'ai pas le permis.
Personne n'a le permis ici.
Et quel niveau scolaire vous avez ?
Islamologie et théologie.
Et sinon, vous aimeriez faire quoi ?
Tu pourrais certainement faire un bon imam.
Imam, c'est pas un métier.
La parole, elle touche.
Bravo, vous allez booster la nouvelle génération.
Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars.
T'es devenu un vrai leader.
Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque.
On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos.
Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps.
Nous, on fera Lisa en moins d'une semaine.
Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à
attends,
la Mecque.
Attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage ?
Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business ? Je commence à m'inquiéter.
Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque.
Les actes ne valent que par les intentions.
Tu peux pas prendre leur oseille, là. On joue pas avec l'argent des gens comme ça.
Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'imam. Interroge ton intention.
C'était la bande-annonce du jeune imam. Je suppose que tu as fini avec ce film.
Ben, j'avais Matt God, mais Matt God, oui, de toute façon, il faut qu'on termine là. Matt
oui,
God,
Marie, sur la fin.
Oui, je voulais en parler de Matt God parce que ça dure 1h24. C'est de l'animation fantastique, expérimentale, c'est épouvante, horreur. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en animation, évidemment, pour les enfants.
Parce que j'ai vu la bande-annonce.
Oui.
Et je t'avoue que j'étais pas bien, quoi.
Ben, c'est Phil Tippett. C'est Phil Tippett qui est un superviseur des effets spéciaux, superviseur des effets visuels, réalisateur américain de 71 ans. Il n'en est pas à son premier essai. Il a 44 ans de carrière, 19 tournages à son actif. Il a eu des prix. Hein. Il a eu des prix et des nominations également. Mais je voulais en parler pour les amateurs quand même, hein, parce que c'est le titre, si on le traduit, ça veut dire « Dieu fou ». Donc, Matt God, c'est quand même, voilà, pour les amateurs de ce genre de cinéma, je voulais quand même le citer, quoi.
Puis qui a participé à de grands films, hein, quand même.
Ah oui, Jurassic Park.
L'épisode 4 de Star Wars.
Et, Willow, Robocop, Cœur de Dragon, etc. Ah bah oui.
Beaucoup de grands films.
Ah oui, Le Retour du Jedi, ça, oui, absolument. Absolument. Et là, bon, ben voilà, c'était pour les fans, je voulais citer ce film. Bon, ben les deux documentaires, c'est trop tard, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. J'avais deux documentaires à citer. L'amitié d'Alain Cavalier. Alain Cavalier, c'est un réalisateur, il a 91 ans. Et il réalise encore des documentaires formidables. L'amitié, ça dure 2h04. Et La belle ville de Manon Turina et François Marquès. Ce sont des productions françaises. Voilà, c'était deux documentaires. J'ai au moins cité les noms. Voilà. Eh bien, on va se quitter, donc.
Ben oui, on va se quitter. C'est la fin. On arrive tout juste à la fin de l'émission.
Oui. Bon, ben, on essaie, mes chéris, on essaie de vous donner des films différents. Il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est, voilà.
Au fait, un maximum de tout, quoi.
Oui. Pour Okuzai, tout à l'heure, dont j'ai parlé, là, qui se passe au Japon au XVIIIe siècle, il y avait quand même, c'était titré somptueux, le portrait saisissant d'un génie. Okuzai, c'est un génie. Hein. Une fascinante immersion dans l'époque Edo, c'est-à-dire Tokyo actuellement, et un coup de maître. J'avais oublié de donner les titrages sur ce film qui a emballé la critique. Okuzai, voilà.
Eh ben, je te propose du coup qu'on se retrouve mercredi prochain.
Oui, bien sûr. Passe une bonne semaine,
Ben, toi aussi.
Voilà. Eh bien, oui, écoute, hein, je te laisse hein, derrière ton micro. Et puis, mes chéris, ben, passe une bonne semaine également. Tâchez d'être heureux le plus possible. Passez d'excellentes journées, hein, Carpe Diem. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est midi. Vous écoutez 100% Nouvelle Scène sur REM.
Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Plus que les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Il faut les voir au petit jour se coucher tout étonnés du monde qui les entoure. Ils vont, ils viennent, ils traînent. Ils parlent fort, ils ne parlent pas. Ils entendent des Carmen qui leur disaient viens par là. Et chaque fois ils y vont, et chaque fois ils en reviennent entre un ange et un démon. Ainsi j'aime les hommes que j'aime. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, ce sont des dons chiants qui savent le chagrin d'amour, des amitiés de survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame et que l'un de nous il touche, on se donne des prénoms de femmes et on s'embrasse sur la bouche. Aujourd'hui c'est mon tour, je vais au bord de la Seine, j'écris au secours, ainsi même les hommes que j'aime. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine